Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième carnet de région du mois de décembre, un magazine qui vous est proposé par plusieurs radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on va parler transport avec tout d'abord l'inauguration à Carcassonne de la nouvelle ligne aérienne Paris-Beauvais. Éric Boyer de RCF Pays d'Hôtes s'est rendu sur place pour le carnet de région. Après l'avion, le train, à Montpellier, depuis un an, la gare de Montpellier-Saint-Roch est en travaux. Il faut dire qu'avec 7 millions de voyageurs par an, l'espace d'accueil de la gare est saturé. Maude de Bourquenay de RCF Maglonero est allé rencontrer à ce sujet Jean Guédira, le directeur régional de la SNCF, en Languedoc-Roussillon. Le 28 juin 2011, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé d'inscrire l'Écosse et les Cévennes, c'était alors le classement d'un bien culturel vivant. Nous verrons un an et demi après ce qu'il en est avec Guillaume Delorme de 48 FM Mende. Navacelles et son célèbre cirque sur le plateau du Larzac comptent depuis quelques jours un nouvel habitant un peu particulier. Alain Mendez de Radio Lodev nous en dira plus dans quelques instants. Dans l'Hérault, sur la commune de Gignac, un jeune couple de maraîchers menacés d'expulsion pour avoir installé une yourte sur leur terrain agricole. Couple qui est au micro de Frédéric Glisbel de Radio Pays d'Hérault. Le musée des Vallées Cévenoles à Saint-Jean-du-Gard va prochainement déménager, un sujet de Julie Azmiro de 48 FM Florac. Enfin, une idée de sortie ce week-end, si vous alliez skier non pas dans les Pyrénées mais à Sète, c'est l'idée saugrenue de Cédric Combé de RCF Maglonero.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cette semaine a été inaugurée à Carcassonne la nouvelle ligne aérienne Paris-Beauvais. C'est la 12e ligne proposée par l'aéroport Carcassonne-Pays-Qatar. Un sujet d'Éric Boyer de RCF Pays d'Hôtes.
11 ans après l'interruption de la liaison vers la capitale, ce nouveau cap est important pour la compagnie Ryanair. Jonathan Brizy, responsable marketing pour la France et la Belgique.
Absolument, c'est vrai que c'est une étape ici, premier vol domestique au départ de Carcassonne, donc vers Paris-Beauvais. Effectivement, donc trois vols par semaine qui vont être proposés ici lundi, mercredi, vendredi, avec des tarifs ici à partir de 14 euros, donc une offre qu'on a ici pour l'instant, valable jusqu'au 17 décembre.
Alors l'avion se pose à Beauvais, concrètement on est à combien de Paris? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour aller à Paris?
Voilà, donc l'avion effectivement se pose à Beauvais, donc vous avez la possibilité ici de rester en Picardie ou alors de vous rendre directement dans la capitale. Vous avez approximativement 90 km, donc la durée du trajet c'est environ une heure quart pour se rendre en plein centre de Paris.
Donc c'est possible en train, il y a de partir depuis Beauvais jusqu'à Paris?
On a une navette ici donc qui est disponible et qui circule toutes les 15, 20, 30 minutes ici, donc très fréquemment, pour se rendre à Paris.
On entend l'avion se poser actuellement. Il a tourné longtemps en altitude. Il n'y avait pas de visibilité.
Absolument, c'est vrai qu'il a tourné ici un petit temps avant de se poser. Donc on a vu avec le commandant de bord ici, on a privilégié, le commandant de bord ici a décidé de tourner avant d'atterrir. Il aurait pu être dévié si le brouillard ici ne s'était pas dégagé, étant donné que les conditions climatiques étaient très défavorables ce matin. Maintenant on voit que le ciel est complètement dégagé, donc l'avion ici vient de se poser. Ouais.
Donc c'est bon signe pour la ligne, vous pensez que ça va vraiment augmenter le trafic cette ligne vers Paris?
Absolument, ici on prévoit 45 000 passagers pour cette ligne à l'année. Le trafic va être boosté, on prévoit 400 000 passagers pour 2012. Et donc l'année prochaine, on espère davantage augmenter le trafic à Carcassonne.
L'avion dont vous avez entendu l'arrivée venait de Charleroi et a donc ensuite rallié Beauvais pour la première fois. Tous les élus étaient présents pour cette inauguration de la nouvelle ligne Paris-Beauvais au départ de Carcassonne, à commencer par le président du conseil général, André Viola. On écoute un extrait de son discours.
La manifestation de ce matin illustre parfaitement le travail accompli par les collectivités locales pour le développement de leur territoire lorsqu'elles savent travailler en bonne intelligence. Ce sont plus de 2 millions d'euros auxquels le Conseil général va participer financièrement au travers de la création d'un giratoire de desserte de l'aéroport que nous cofinancerons avec la région et la communauté d'agglomération de Carcassonne. Donc bon vent à cette nouvelle ligne qui était très attendue sur Carcassonne et sur le département, cette liaison avec Beauvais et Paris. qu'une première étape de tous les gros investissements qui vont être faits autour de cet aéroport aux côtés de la région Languedoc-Roussillon. Merci.
Et même si les prix de cette nouvelle ligne Paris-Beauvais au départ de Carcassonne semblent attractifs, il convient de réserver à l'avance pour s'assurer d'un prix très bas. Il y a quelques jours, il restait encore des places pour le vol inaugural de ce mardi, mais au prix plus important de 86 euros.
Et aujourd'hui, l'aéroport de Carcassonne assure 130 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire. À elle seule, la nouvelle ligne Paris-Beauvais représente la création d'une trentaine d'emplois indirects. Depuis un an, la gare de Montpellier-Saint-Roch est en travaux. L'objectif principal est d'agrandir l'espace d'accueil. Il faut dire que la gare est aujourd'hui saturée avec 7 millions de voyageurs par an. Une fréquentation qui continue d'augmenter. La SNCF prévoit d'ailleurs 9 millions de voyageurs dans 10 ans. Ces travaux étaient donc nécessaires, à en croire Jean Guédira, le directeur régional de la SNCF en Languedoc-Roussillon, afin de s'adapter à ce qui est aujourd'hui la 8e agglomération française.
Très clairement, aujourd'hui, la gare de Montpellier est sous-dimensionnée. Sous-dimensionné dans les accès au quai. On voit bien que on fait la queue aux escalators, on fait la queue sur les quais. Donc il fallait doubler, c'est ce qu'on va faire, on va doubler les capacités d'accès sur les différents quais. On va doubler les surfaces d'évolution dans la gare. Là aussi, on voit qu'aujourd'hui, si vous avez le moindre petit incident, moins de petits retards ou le froid simplement qui fait que les gens se massent au rez-de-chaussée, tout de suite, on sature. Et donc là, on va plus que doubler les surfaces. Et puis, on va en faire un axe beaucoup plus intégré dans la ville et donc il sera transversant est-ouest, nord-sud, où on pourra passer dans la gare facilement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a que quelques points d'accès, le parvis historique ou du côté de Pont-de-Sète avant les travaux qui faisaient l'accès de la gare. On aura dès juin 2013 un nouvel espace de vente qui est du côté SNCF qui sera modernisé. Ça sera le premier espace de vente nouvelle mouture qui va se déployer après sur l'ensemble de la France. Une évolution du vendeur face au client qui fera qu'il sera en contact direct avec le client et tous les services, c'est-à-dire vente TER, vente TGV et vente intercité au même endroit. Des services liés à la gare que l'on n'avait pas aujourd'hui et qu'on nous réclamait, je pense par exemple aux consignes, c'est quelque chose que souvent les gens nous disent où est la consigne, où on peut la mettre, là il n'y a pas de consigne, on pense à la nurserie, un endroit pour changer les enfants, on n'a pas, et bien demain on aura tout ça en gare, donc le temps du voyage sera beaucoup plus sécure. Et puis pour l'animation en gare, eh bien des commerces. On passera de 4 commerces à 14 commerces. Les commerces traditionnels qui sont liés au voyage, la vente de presse, la restauration de base, sandwicherie, etc. Et puis d'autres commerces qui sont plus là des commerces urbains. Une grande surface jusqu'à tard le soir, comme on peut trouver maintenant les grandes surfaces market, comme on dit, en centre-ville. Après, des services un peu plus originaux encore, qui sont par exemple un laboratoire d'analyse médicale. L'idée est que nos clients, nos voyageurs, profitent du temps de leur transport pour faire leurs petits actes du quotidien et le faire directement sur leur chemin de leur déplacement. Voilà, donc on aura un laboratoire d'analyse, vous pourrez faire vos analyses le matin et récupérer les résultats le soir sans avoir à vous déplacer à l'autre bout de la ville.
Et une première partie des travaux doit s'achever en juin prochain. La moitié de la gare sera opérationnelle. La deuxième phase devrait-elle durer jusqu'à la fin 2014 ? Et Jean Guédira le promet, la SNCF sera à l'heure. Le 28 juin 2011, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé d'inscrire l'Écosse et les Cévennes. C'était alors le classement d'un bien culturel vivant. On écoute Jean-Paul Pourquier, le président de l'entente interdépartementale Écosse et Cévennes, qui précise les raisons de ce classement et les modes de gestion de ce bien.
Ce bien a été classé au titre des biens culturels vivants, et non pas pour la beauté des paysages en soi, mais parce qu'ils ont été façonnés par l'agropastoralisme. L'agropastoralisme, c'est la présence de l'homme et de l'animal sur le territoire, donc une agriculture très présente. Oui, alors ce territoire s'étend sur 4 départements, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron et la Lozère. C'est vrai que c'est le territoire, je crois, le plus grand au monde qui n'était jamais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est vrai que c'est quand même une particularité qui a été une particularité pour le classement, mais qui est aussi une particularité qu'il faut gérer maintenant. Alors, la gouvernance s'est organisée autour de trois instances différentes, chacune a un rôle. Il y a la conférence territoriale, présidée par le préfet coordonnateur, en l'occurrence le préfet de la Lozère, qui regroupe l'ensemble des collectivités, les chambres consulaires, les organismes en lien avec l'environnement ou la culture, etc. Donc voilà la conférence territoriale. Ensuite, il y a le comité d'orientation, avec à l'intérieur un comité scientifique, chargé de faire des propositions, amener un certain nombre d'idées, un peu la réflexion. La conférence territoriale est en charge de valider les orientations et l'entente interdépartementale qui a été décidée comme organe d'exécution, bon, qui peut faire aussi des propositions, mais qui est en charge de mettre sur pied, d'exécuter les orientations, les décisions qui ont été prises par la conférence territoriale.
Et l'entente interdépartementale COSE-Cévennes met en place une démarche d'association de la population et des acteurs avec des réunions publiques.
Nous avons décidé de mettre en place ces réunions d'information. L'objectif, c'est de faire savoir ce qu'est l'inscription, quels sont nos devoirs, mais aussi d'écouter, voir qu'est-ce qu'attend le territoire, qu'est-ce qu'attendent les acteurs, et qu'est-ce qu'ils souhaitent qu'on mette en place pour avancer et aller dans le sens où ils souhaitent. Bon, et là, l'entente peut porter ses propositions, enfin, en tout cas sélectionner, mais peut porter un certain nombre de propositions.
Des actions ont été menées notamment concernant la communication touristique par les 4 comités départementaux du tourisme concernés par le projet. Et l'entente départementale est au travail. Écoutez Sandrine Lagloire, directrice de l'entente sur les actions menées et à venir.
L'entente a déjà eu un certain nombre d'actions en 2012. Suite à la demande de l'État de gérer l'emblème UNESCO, l'entente a déjà défini les conditions d'utilisation de l'emblème et aide les porteurs de projets qui veulent utiliser cet emblème. Il y a une réflexion sur la signalétique routière, notamment sur les axes nationaux, qui a été engagée. Et donc, c'est une action qu'on souhaite voir réalisée d'ici 2013. Ensuite, il y a une préparation pour l'édition du guide vert Michelin pour l'édition 2013. Il y a eu l'organisation en octobre dernier des journées internationales de l'agropastoralisme qui ont été co-organisées par l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier et l'entente interdépartementale pour faire venir un certain nombre de spécialistes de l'agropastoralisme au niveau international. Il y a eu les fameuses plaques commémoratives que souhaite l'UNESCO pour chaque site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Le territoire étant très étendu, 4 plaques vont être mises en place. Donc une au Mont Lozère, une au Mont Aigoual, une au Cirque de Navacelles et une à l'aire du viaduc de Millau, de façon à montrer en fait le prestige de cette inscription sur le territoire.
Et des actions émergent autour des circuits touristiques, avec notamment une première carte touristique des produits et aussi de l'agriculture. Les réunions publiques sont en cours d'abord en Lozère d'ici la fin décembre et ensuite dans les autres départements. C'était un sujet de Guillaume Delorme de 48 FM Mende.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héro,
Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Navacelles et son célèbre cirque sur le plateau du Larzac comptent un nouvel habitant depuis quelques jours. Un jeune vautour fauve blessé près du littoral puis soigné au centre de soins de Ville-Veyrac, animé par la Ligue de protection des oiseaux, y a en effet été relâché. Maëlle Carmabon est l'une des 2 responsables de ce centre.
Alors c'était sur Marseillan, au niveau de l'étanteau, donc en fait c'est les pompiers qui m'ont appelé une première fois pour me dire qu'on leur avait signalé un vautour, qu'ils avaient été essayer de le capturer, en fait le vautour était reparti. Et une heure après, en fait, j'ai eu la gendarmerie. Du coup, je leur ai dit de m'attendre. On est allé sur site avec une bénévole. On a été capturer le vautour, on l'a récupéré, amené au centre. C'est un oiseau qui a été tiré, donc il avait une vingtaine de plombs dans le corps, un peu répartis partout. Donc, il avait une hémorragie interne. Donc, on l'a amené chez notre vétérinaire, qui a fait une radio pour confirmer. Il avait rien cassé, donc c'était une chance. Donc on a stoppé l'hémorragie, on a mis 3 jours, on l'a réhydraté parce qu'il était complètement déshydraté. Et au bout de 3-4 jours, il a commencé à manger tout seul et à se tenir sur ses pattes, donc ça allait mieux. D'abord, ça a été un peu long, il est resté en intérieur et puis en fait, on l'a passé en extérieur en volière pour qu'il reprenne un peu ses esprits. Là, en fait, on a attendu qu'il retrouve un bon poids et qu'il soit en pleine forme. Et donc maintenant, là, c'est le moment, il peut retrouver la vie sauvage.
Recueilli fin octobre, ce jeune oiseau a retrouvé sa liberté dans un endroit prestigieux où il va côtoyer d'autres espèces de vautours déjà présentes, à la grande satisfaction du président de la LPO de l'Hérault, Pierre Mestre.
Le vautour a besoin de falaises de manière à pouvoir bénéficier de toute l'aérologie nécessaire à ses vols. En plus, dans le secteur, il y a un certain nombre de vautours déjà qui viennent régulièrement manger, puisque des agriculteurs ont organisé des placettes d'alimentation, justement avec des brebis mortes sur leur propriété. Donc les vautours sont habitués à ce site-là.
Il y a plusieurs types de vautours qu'on peut trouver ici.
Alors il y a 4 espèces de vautours dans le secteur. Hein. Je partirai du plus petit au plus grand, si vous le permettez. Il y a le vautour percnoptère hein, qui est tout blanc, qui a la face jaunâtre, qui est un petit vautour, mais actuellement il est en Afrique. Il hiverne dans des contrées plus chaudes. Après on a le vautour fauve, et c'est bien un vautour fauve que nous allons lâcher. C'est un oiseau de 2,70 m d'envergure, environ une dizaine de kilos, qui lui est grégaire et niche dans des falaises. Nous avons après le vautour moine, qui est un autre vautour à peu près de la même taille, mais qui est tout noir et qui lui niche d'une manière isolée sur des arbres. Et cette année, au mois de mai, la Ligue pour la protection des oiseaux a réintroduit dans le secteur des gypaètes barbus, le fameux quebrantahuesos espagnol, c'est-à-dire le briseur d'os, qui lui vient en dernier pour se repaître des os et des cartilages lorsque les brebis ont été, ou les autres proies ont été débarrassées de toute la viande par les vautours précités.
Alors, on retrouvera donc toute la chaîne, toutes les espèces, en tout cas ici du coup.
Exactement, on est dans un site privilégié et c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi pour rendre la liberté à ce vautour.
C'était un sujet réalisé par Alain Mendez de Radio Lodev. Sur la commune de Gignac, un jeune couple de maraîchers a installé une yourte sur leur terrain agricole d'une surface de 4000 m². Ils jouissent de la proximité du canal de Gignac pour irriguer leurs récoltes et sont énergiquement autonomes grâce à des panneaux solaires. Parents d'un petit garçon de 5 mois, le portrait pourrait paraître idyllique, même si le travail de paysan est rude et que le confort en plein air limité. Mais depuis peu, leur installation fait l'objet d'une assignation en justice. Arnaud Masson et Véronica Doyen au micro de Frédéric Glisbel de Radio Pays d'Hérault.
Donc on a installé notre yourte sur notre terrain et apparemment suite à un signalement d'une personne, un monsieur X, qui a signalé donc l'installation de notre yourte en mairie. Et c'est un genre de plainte en fait. Et donc là, suite à ça, la mairie a dû faire une petite enquête, envoyer la police pour vérifier la présence de la yourte, prendre des photos, etc. Et donc, comme selon la mairie, on n'est pas dans les normes, enfin dans les règles du POS, du plan d'occupation des sols, on est attaqué en justice, disons, par rapport à ça, quoi.
Alors, au niveau réglementaire, comment ça se passe? Ça veut dire que si on a un terrain, on est propriétaire d'un terrain, on ne peut pas mettre de yourte dessus?
C'est un peu le problème de la yourte qui est un peu récurrent en ce moment, c'est que la yourte, c'est un peu un vide juridique. C'est-à-dire qu'une yourte, ça peut être considéré comme une tente, mais maintenant, il y a quelques réponses ministérielles qui essaient de la faire passer comme une habitation légère de loisirs et qui est soumise à permis de construire. Donc il y a un petit peu un quiproquo là-dessus, parce que c'est...
C'est-à-dire que il n'y a pas de fondation, c'est comme une tente, c'est posé en fait. Donc ça permet de pouvoir s'installer aussi sur le terrain d'exploitation, là où on travaille. Et ça permet d'avoir un habitat qui reste dans les règles, puisque en fait les règles du poste, c'est qu'on ne peut pas construire, c'est une terre qui est non constructible. Alors en l'occurrence, justement, c'est une tente qui est juste montée en fait. Donc on pensait qu'on pourrait justement respecter les règles et pouvoir monter cette yourte et vivre dedans. Mais après voilà, ça soulève plein de problèmes.
Donc apparemment, la loi, il y a un peu un flou juridique et ça dépend des jurisprudences, des communes, vous...
Ouais, voilà, ouais. Bah, disons que le point un petit peu sensible, c'est les équipements intérieurs. C'est-à-dire qu'une yourte qui est juste posée sur un terrain, sans rien à l'intérieur, juste avec un petit peu de mobilier, ça reste pour une tente. Mais ils essayent de la faire passer comme une habitation légère de loisirs dès qu'il y a un équipement intérieur. Alors c'est là où c'est un petit peu vague, c'est-à-dire que ça peut être une douche, un évier, etc. quoi.
Bah, en fait, ils ont peur surtout, il y a eu ce problème avec la cabanisation, ils ont peur que ça prolifère, qu'il y ait plein de gens qui s'installent un peu n'importe où, n'importe comment. Donc quelque part, ils ont besoin aussi de poser des règles et nous, il faut qu'on vienne justifier... que le droit de vivre, on va dire, il faudrait qu'il y ait des nouvelles règles qui se mettent en place par rapport à ça, quoi.
Et pour l'heure, légalement, une yourte utilisée comme résidence principale est soumise au droit commun des constructions. Elle nécessite donc une autorisation d'urbanisme. En zone agricole, une construction ne peut être envisagée que si l'activité agricole est pérenne et que l'habitation sur le terrain est rendue nécessaire 24 heures sur 24, comme pour le cas de l'entretien et la surveillance technique de chambres froides ou de serres chaudes. D'une manière générale, l'autorisation des yourtes dépend de la manière des maires de faire respecter la police de l'urbanisme. Il y a des communes ou des zones qui sont spécifiquement prévues dans le plan local d'urbanisme pour accueillir des yourtes, mais cela reste encore rare. Depuis 1999, le musée des vallées Cévenoles à Saint-Jean-du-Gard est reconnu établissement classé et contrôlé par la direction des musées de France. Actuellement en place dans un ancien relais d'affinage du XVIIe siècle, le musée va investir prochainement la Maison Rouge, filature de soie classée monument historique. Un déménagement qui vise à faire de ce musée un site d'envergure régionale pour le maître d'ouvrage, la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes. On écoute Daniel Travier, conservateur du musée, au micro de 48 FM Florac.
Le musée des vallées Cévenoles actuellement occupe 600 mètres carrés, à peu près, sur lequel on a développé une exposition permanente, mais sur lequel on n'a aucun espace pour des expositions temporaires, on n'a aucun espace pour faire de l'animation culturelle, salle de conférence et surtout classe, salle pédagogique pour accueillir des scolaires ou même d'autres personnes avec qui on doit faire des choses. On n'a pas de réserves sur place, elles sont totalement éclatées, pas de lieu pour travailler sur les collections. On a un lieu d'accueil qui fait 12 mètres carrés, qui sert aussi de boutique et où on a les personnels qui travaillent sur les collections. C'est là où, sur 12 mètres carrés, qu'on doit tout faire. Donc on était quand même très à l'étroit et on s'est rendu compte que on est musée de France et que donc on a des devoirs en termes de prestations, si vous voulez, de services publics d'un musée, et qu'en fait on n'en assumait qu'une et encore pas totalement bien, c'était l'exposition permanente. Et si on veut fidéliser, alors il existe depuis, à cet endroit-là depuis 82, ça fait donc 30 ans que le musée est là, qu'il n'a pas évolué d'un poil. Donc les gens, ils l'ont vu deux fois, trois fois, cinq fois. Bon, à terme, si vous voulez, il faut qu'on trouve une dynamique pour le faire mieux fonctionner. Il est dans un endroit qu'on ne peut pas élargir, on ne peut pas agrandir ce musée-là. Et même si son caractère architectural de vieille auberge du XVIIe siècle, avec une cour intérieure, des voûtes, est très belle, hein, c'est un beau lieu, franchement, ça devenait caduque. Et le musée reste là, il était condamné un jour à disparaître. Donc, par ailleurs, il y a un lieu qui s'est libéré sur Saint-Jean-du-Gard, qui est l'ancienne filature de soie, Maison Rouge, qui est un très très grand espace où il y a du terrain et faire ce dont on a besoin. En plus, c'est un lieu de mémoire extrêmement fort pour un des thèmes qui est cher au musée, c'est la soie. C'est un bâtiment classé monument historique, il y a un parc. Enfin bon, on n'est plus dans un lieu dans la ville, on est sur un site. Et donc ça donne une autre dimension, si vous voulez, au musée. Et là, on va pouvoir mobiliser pour tout le service public du musée, c'est 2600 m². On va doubler l'exposition permanente qui va passer à 1200 m². Exposition temporaire, on va avoir 250 à 300 m² d'exposition temporaire, des salles de conférences, etc. etc., etc., etc. On se donne d'autres moyens et aussi faire vivre ce musée d'une façon un peu plus à la hauteur de ses collections.
Et vendredi prochain, 48 FM Florac devient Radio Barthès et propose à cette occasion une journée en direct sur le 107.7 et en streaming sur www.radiobarthas.net en dehors de sa zone d'écoute. Auditeurs, professionnels de la radio ou autres, vous pouvez envoyer pour diffusion lors de cette journée un petit mot, encouragement, pensée apocalyptique, chronique du fin du fond des Barthas de chez vous, en format Wave ou MP3 sur contact.48fm@orange.fr, les radios associatives non commerciales qui comptent sur votre soutien. Enfin, ce week-end, les 14, 15 et 16 décembre, et pour la 7e fois, la rue Paul-Valéry a revêtu son blanc manteau grâce à la volonté du ski club C'est Toi, soutenu par la ville et la station de Font-Romeu qui a fourni la neige. Claude Combaz, président de l'association Ski Club C'est Toi, au micro de Cédric Combé de RCF Maglonero.
Claude Combaz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du ski club C'est Toi et vous allez organiser tout au long du week-end de la neige à 7. Alors, est-ce que c'est possible ça, de la neige à 7 tout au long du week-end?
Oh, c'est possible parce que nous en sommes à notre 7e édition. On a déjà prouvé que c'était possible. La ville la plus au sud de France, la plus éloignée des montagnes et au bord de la mer. Thierry Gignoux dit Boule, qui est la personne qui a eu cette idée, mais qui était président d'honneur déjà du ski club. Donc un jour, on s'est retrouvé en 2005 dans les bureaux de François Comaine, le maire de Sète, pour essayer de le convaincre de cette idée un peu folle, mais qui pouvait être très originale comme notre ville, en fin de compte, hein, puisque notre ville elle est très connue par rapport à plein de personnages illustres ou des inventeurs de toutes sortes. Donc on avait eu cette idée, et après, on a trouvé un partenaire extraordinaire, c'était la station de Font-Romeu, qui a cru vraiment à notre histoire. Et à Sète, si on met de la neige dans une rue, comme tout est en pente depuis la croix du Mont-Saint-Clair, je veux dire, aux plages du Lazaret, on a une piste de ski.
quand en reverrai-je pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux.
C'est une véritable chaîne de solidarité.
Ah oui, c'est vraiment une chaîne de solidarité parce que le Ski Club, c'est une association loi de 1901 sans un professionnel, enfin sans salarié. Et donc, il s'est greffé la mairie, il s'est greffé quelques partenaires institutionnels, hein, comme le Conseil Général, hein, et la station de Fort-Romeu est une grosse aide, je veux dire, un petit clin d'œil d'ailleurs à nos amis les pêcheurs et les marailleurs, puisqu'en ce moment, quand même, il faut dire que les temps sont durs pour eux, et ils font toujours un geste pour qu'on puisse bénéficier quand même de beaucoup de tonnes de glace qui habituellement, ils font marcher leur glacière un peu pour nous, et on peut refroidir la rue, et c'est pour ça qu'on a un petit avantage par rapport à d'autres villes ou d'autres coins de France si vous voulez organiser la même chose.
Alors où ça va se situer précisément dans cette en place centre-ville?
Alors là, c'est vraiment le centre-ville, hein, puisque c'est la rue Paul-Valéry. Donc la piste part, elle ne part pas encore du collège, parce qu'il est quand même très haut, mais elle part au niveau de la rue Jean Jaurès jusqu'à l'hôtel de ville, c'est-à-dire que l'arrivée est vraiment devant la mairie.
Et l'objectif, c'est d'offrir finalement à des gens qui ne peuvent peut-être pas aller au ski, de s'offrir voilà, en l'espace d'un week-end, justement à Sète, de pouvoir descendre et dévaler comme ça les rues de Sète sous la neige.
Au départ, c'était peut-être quelque chose comme un coup de pub, et c'est devenu très très vite vraiment un lieu d'initiation. C'est-à-dire que quand même, dans l'édition 2010, il y a 1000 enfants qui sont passés pendant les 2 jours sur cette piste par tranche de 2 heures. Ça me demande un effort énorme, hein. C'est 80 bénévoles, hein. 80 bénévoles, plus encore quelques moniteurs qui viennent faire glisser des enfants que je ne compte pas, parce que des fois ils viennent passer 2 ou 3 heures pour donner un coup de main. C'est 80 bénévoles pour faire skier 1000 enfants pendant 2 jours. Ça a dépassé le coût de publicitaire, c'était vraiment essayer de sensibiliser les gens voilà, à cette pratique.
Monsieur Luce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planté du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud.
Quand il arrive la neige à 7, les gens recherchent la fiche de neige à 7. Elle est toujours très très originale, on y pense à la fin, on reprend des vieilles affiches du passé que l'on transforme, et, je veux dire donc avec les moyens modernes. Ça commence comme ça, après ça commence avec un milieu convivial où les gens vont pouvoir, ce sera une distraction. Et ce qui est bien, c'est que c'est une distraction où 1000 personnes participent et où 5000 personnes regardent, au milieu d'une ville. C'est vraiment une certaine gaieté et à petit prix.
Voilà, ce carnet de région est maintenant terminé. Merci aux radios associatives qui produisent et qui diffusent ce magazine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier carnet de région de 2012.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.